La polarisation du débat public est exacerbée dans de nombreux pays à travers le monde, notamment dans les démocraties, ces pays où l'on peut s'exprimer, avec des impacts humains considérables sur le vivre ensemble. Et il y a une impuissance collective à nous comprendre. Pourquoi ? Notamment parce que l'on n'écoute pas assez les autres. Les médias et les journalistes portent une responsabilité primordiale dans cette situation. Et s'ils se remettaient un peu en question, le monde irait peut-être un peu mieux. Salut, c'est Steven Jambeau, vous êtes sur RFI et vous écoutez l'Atelier des médias. L'émission dure 20 minutes à la radio, plus encore si vous faites le choix de nous écouter en podcast. Mon invitée a été journaliste en Russie. Et depuis 2016, elle est la référente du Solutions Journalism Network, le SJN, en Europe. Un réseau qui veut croire qu'il est possible de repriser les trous dans le tissu social par une approche journalistique apaisée et apaisante. Elle vient de publier un livre où elle met en avant une valeur cardinale à cultiver, l'écoute. Bonjour Nina Facio.
Bonjour Steven.
Bienvenue dans l'Atelier des médias.
Merci beaucoup de me recevoir.
Malentendu, les Français, les médias et la démocratie, c'est le titre de votre livre, un petit livre rouge qui est sorti le 8 janvier 2025 aux éditions Payot. Le déclic pour ce livre est arrivé en juin 2018 par un essai de la journaliste américaine Amanda Ripley. Expliquez-nous.
Effectivement, Amanda Ripley est une journaliste d'investigation américaine qui, au lendemain de l'élection de Trump...
La première élection de Donald Trump,
celle de 2016 exactement, a fait le constat de son propre échec et de l'échec du journalisme, en cela qu'elle avait la sensation qu'elle n'avait pas vu venir, elle n'avait pas su entendre les millions d'électeurs qui s'étaient reconnus en Trump, mais qu'elle aussi, en tant que journaliste, n'avait pas été entendue pour ce qu'elle avait à dire du pays. Et donc, elle s'est intéressée, elle a mené une longue enquête pour comprendre qu'est-ce que les journalistes pouvaient apprendre des experts en médiation de conflits, des gens qui, justement, savaient écouter mieux. Et ça l'a amenée à publier un essai qui s'appelle « Complicating the Narratives ».
Compliquer les récits.
Exactement.
Complexifier les récits.
Où elle explore comment des techniques issues de médiation de conflits, mais aussi une meilleure écoute, une prise en compte de nos biais cognitifs, certains outils peuvent nous aider à honorer la complexité des sujets et à mieux entendre ce qui passe sous silence généralement.
Et donc elle a mis en place une formation qui s'intitulait « Why journalists need to complicate the narrative ».
Alors effectivement, elle a publié l'essai, la résonance a été telle au sein de notre réseau international, donc le Solutions Journalism Network, qu'on a travaillé avec elle, mais aussi avec des experts en médiation de conflits, pour monter cette formation ensemble. Et c'est une formation qu'on a commencé à proposer aux journalistes dès 2018-2019, du même nom en fait que son essai « Complicating the Narratives ».
Avec une idée fondamentale, celle de travailler l'écoute. Je vais vous citer Nina Facio dans votre livre. « Nul besoin d'être journaliste pour constater que nous sommes souvent confrontés à de grandes difficultés pour nous comprendre les uns les autres, et ce pour une raison évidente, nous ne nous écoutons pas, tout occupés que nous sommes à nous positionner. Nous sommes, dites-vous, dans le règne de l'écoute insincère. »
Tout à fait. Alors, c'est en fait un constat tout simple, c'est que l'écoute n'est pas considérée comme une compétence. C'est au mieux un talent inné que certains journalistes ont, mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'on est accompagné à maîtriser, tant au niveau, tant pour les journalistes que pour le citoyen lambda d'ailleurs. C'est vraiment, on est accompagné à communiquer, à s'exprimer, à construire un esprit critique, un jugement, mais pas à écouter. On ne sait même pas ce que ça requiert de savoir bien écouter.
Alors même que dès le début de l'humanité, bien écouter, bien entendre, c'était un instinct de survie, c'était important.
Tout à fait, c'est un instinct de survie et je fais le parallèle dans mon livre avec la crise climatique et cette perception du danger en fait, qui s'en vient, que le monde animal a bien su garder. Et que les peuples premiers aussi ont su encore maîtriser, mais que dont nous sommes complètement coupés.
Nina Facio, vous rappelez aussi que l'écoute n'est pas enseignée dans les écoles de journalisme et même pas perçue comme une compétence à acquérir pour les journalistes.
Tout à fait. On accompagne les journalistes à poser les bonnes questions, à, comme vous dites, à parler dans un micro, à enquêter. mais pas à vraiment accueillir la parole de l'autre. Accueillir la parole de l'autre dans un... avec vraiment pour objectif de réceptionner ce qui est dit et de le comprendre profondément. Donc en fait, il y a plusieurs choses qui nous empêchent d'être à l'écoute, et notamment, avant tout, nous-mêmes.
Vous écrivez concrètement, il faut être réceptif à une information pour l'entendre et la saisir, et ce d'autant plus lorsqu'on est journaliste. L'écoute dépend alors avant tout de ce que l'on est en capacité ou en disponibilité d'entendre. Tout ce qui se situe au-delà de notre perception passe sous silence, car il n'y a tout simplement pas accès. Donc, on est en train d'écouter parfois notre invité, mais on sait ce que l'on veut en tirer et donc on pense à autre chose, on pense à la question d'après, plutôt que d'accueillir la parole et de laisser les phrases se terminer posément.
Exactement. Et alors, il y a plusieurs mécanismes qui nous empêchent d'être à l'écoute de l'autre ou de notre invité interviewé dans le cas des journalistes. Avant tout, notre propre voix intérieure, celle des journalistes, effectivement, va s'attacher à quelles questions on va poser ensuite. Est-ce qu'on a obtenu l'information qu'on était allé chercher? Mais aussi, ça peut être la prise de soin, des choses très techniques. Est-ce que j'ai bien noté le nom de l'invité correctement? Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent en permanence dans nos têtes qui nous empêchent d'écouter. Mais il n'y a pas que cette voix intérieure. Il y a aussi nos bulles sociales. C'est-à-dire qu'on va avoir... accès à une information en fonction de ce qui nous a construit, de notre histoire personnelle, de notre point de vue sur un sujet. Évidemment, on prend très peu en compte ces biais cognitifs qui nous, en fait, en permanence, filtrent l'information qu'on va considérer comme importante.
Et les journalistes aussi sont parfois dans ce que vous appelez, ce que vous qualifiez de journalisme transactionnel. C'est-à-dire qu'ils arrivent pour prendre quelque chose. Parfois, ils savent même déjà ce qu'ils veulent obtenir de la personne à qui ils tendent leur micro.
Oui, alors c'est quelque chose qui est particulièrement prégnant dans l'audiovisuel parce qu'évidemment, il y a des contraintes de temps, d'enregistrement, des contraintes techniques. Et effectivement, ça force les journalistes à anticiper la façon dont va se dérouler l'interview et potentiellement fermer la réception de certains propos. C'est-à-dire qu'on va rester concentré sur ce qu'on a anticipé de ce que l'autre doit exprimer.
Et vous parlez aussi du contexte dans votre livre, du contexte informationnel, notamment eh bien, la profusion d'informations qu'il y a et les problèmes que cela engendre aussi, l'infobésité, le bruit de fond qui fait que bien, il y a de l'information partout, tout le temps, et puis les gens en ont trop en fait et ne savent plus par où commencer.
Oui, alors effectivement, je me suis intéressée aussi à voir comment de l'autre côté du micro, c'est-à-dire comment les citoyens, les gens reçoivent l'information. On est tellement inondé d'informations, il y en a tellement partout tout le temps, qu'on, sans s'en rendre compte, on ne la réceptionne plus pour ce qu'elle a à nous dire. Il y a un spécialiste des médias, François Jost, qui parle de, par exemple, dans le cadre de l'information en continu, de télé d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va allumer la télé ou même la radio sans vraiment entendre ce qu'elle nous dit ou ce que les invités nous disent.
Il se trouve en plus qu'il y a de plus en plus eh bien, de sujets anxiogènes, que ce sont les problèmes qui sont mis en avant.
Alors, les problèmes, c'est ce que je dis dans mon livre, les problèmes hurlent et les solutions murmurent. C'est-à-dire que c'est très facile d'entendre parler des problèmes en étant assis derrière un ordinateur quand on est journaliste. Ça demande un effort supplémentaire d'aller s'intéresser aux réponses apportées à ces problèmes. Et effectivement, et ça c'est quelque chose qu'on voit dans des études de différents instituts depuis des années, les gens décrochent de l'information, notamment parce qu'elle est anxiogène. Et donc ne sont plus réceptifs à l'information, décrochent parce qu'ils se sentent déprimés par elle en fait.
Et vous écrivez aussi « Enquêter sur des solutions demande à la fois une grande curiosité journalistique, un vrai travail de terrain et une proximité avec les communautés concernées par les problèmes traités. Dire que... et le problème, ce que vous signalez aussi, c'est que lorsque les journalistes font ces sujets de fond, d'écoute, ils ne trouvent pas toujours leur audience. Donc il y a un équilibre à essayer de trouver de la part des journalistes et des médias entre les sujets, entre la façon de les traiter pour essayer d'élever le débat public, de l'apaiser parfois, mais en même temps de répondre à une demande de la part des audiences.
Oui, je pense que la responsabilité est vraiment partagée. C'est-à-dire que, comme vous dites, il y a une nécessité d'élever un peu le débat public sur de nombreux sujets. Il y a aussi une responsabilité qui incombe au public qui n'est pas satisfait de cette information anxiogène ou qui n'est pas satisfait de cette information qui divise, une responsabilité à prendre des citoyens de consommer l'information différemment. Après, ce que j'ai pu constater, moi, avec mon travail, c'est qu'en fait, quand on fait du journalisme de solution, mais sur des problèmes qui ne sont pas, au fond, le reflet des vraies préoccupations des gens, c'est un petit peu comme essayer de penser une fracture, c'est-à-dire que ça ne marche pas, ça ne prend pas. Donc, il faut vraiment s'intéresser aux solutions sur des sujets qui sont très proches des vraies préoccupations des gens, de ce qui les empêche de s'endormir la nuit, de ce qui les préoccupe profondément.
J'ai noté aussi que vous parliez de la notion de fait versus la notion de perception. Vous écrivez, Nina Facio, « Pour les journalistes, la réalité est essentiellement liée à la véracité des faits. Or, pour le public, elle est aussi fondamentalement une question de perception. » Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là.
Alors, ce que je veux dire, c'est que parfois, les gens ont beau être d'accord sur les faits, c'est pas forcément, ça va pas se refléter dans leur quotidien. Et je donne l'exemple des pénuries d'eau ou des problèmes de sécheresse, où effectivement, on ne va pas dire que ce n'est pas un problème qui n'est pas existant, c'est-à-dire que le fait est là, il est admis généralement par les gens, mais ils ne vont peut-être pas le voir dans leur quotidien. Et du coup, le fait de approcher ce sujet comme s'il était vraiment prégnant partout va créer une sorte de méfiance au sein du public, parce qu'il va dire « oui, en fait, je ne le vois pas autour de moi ». Et ça, sur des sujets vraiment épidermiques ou sur des sujets... une déconnexion aussi à l'international. On voit, quand on va traiter certains pays, parler de certains pays toujours autour de mêmes sujets. Et quand on y voyage, parfois, on se rend compte que la réalité est bien plus complexe que ça. Donc, c'est ce gap, en fait, entre les faits, la réalité et les perceptions. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris grâce à mon expérience de journaliste en Russie. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on raconte de la Russie, le fait que ce soit un régime totalitaire, le fait que ce soit un pays qui est majoritairement dans la misère, évidemment, les questions de conflit autour de la Russie, tout ça, c'est vrai. Mais quand j'ai vécu là-bas, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne racontait pas. Et c'est cette complexité-là de la réalité qui fait qu'on va se reconnaître dans la réalité qui est la nôtre. Et ça a été vraiment mon déclic à moi.
Vous écrivez, Nina Facio, pour relever le casse-tête de cette intersection tenace entre les faits et les perceptions, les journalistes doivent privilégier la curiosité au jugement. Y a-t-il trop de jugement dans les médias actuellement de la part des journalistes ?
Je pense qu'il y a du jugement, pour certains journalistes en tout cas. Quand il n'y en a pas, il y a en tout cas des questions fermées qui enferment les gens dans un récit, comme on disait, un peu préétabli, ou alors une lecture binaire de la réalité de certains sujets, qui peuvent parfois, du coup, être assimilés à un jugement. Alors, ce qu'il faut en tant que journaliste, c'est avoir du discernement, donc c'est-à-dire quelque chose de dépassionné. Le jugement va être beaucoup plus arbitraire, va faire appel à nos propres opinions, nos émotions par rapport à un sujet. Et je pense que c'est important en tant que journaliste de tendre vers l'honnêteté intellectuelle plus que l'objectivité, parce que nous sommes des êtres subjectifs et votre cerveau, en m'écoutant là à l'instant T, filtre ce que je raconte en fonction de ce qui résonne en vous et c'est bien normal. Je pense que l'important, c'est vraiment de l'assumer, en fait, d'être transparent sur cette subjectivité.
Et dans la façon d'aborder les autres aussi, de se poser la question de la posture que l'on adopte et donc de voir comment est-ce que l'on accueille la parole de la personne qui est en face de nous.
Oui, alors dans l'écoute, il y a un rapport de domination qui est tout à fait naturel. J'ai parlé à une experte en Scandinavie qui s'appelle Corinne Johnson, qui a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée, c'est que quand, dans les sociétés occidentales en tout cas, quand on dit à un enfant « tu ne m'écoutes pas », en fait on veut dire « tu ne m'obéis pas ». Et donc je pense qu'inconsciemment, on est construit avec cette idée-là que l'écoute, c'est la soumission. Donc il y a des rapports de domination qui se créent. Ensuite, évidemment, quand le journaliste décide ou pas de donner la parole, décide ou pas de couper ensuite après l'enregistrement, décide ou pas de ne garder qu'un certain... une infime partie de ce qui a été dit a un pouvoir. Et les gens qui sont interviewés en sont bien conscients. Donc il y a un rapport de domination, effectivement, qu'il est important de reconnaître. Et je pense un travail assez simple, on va dire, énoncé comme ça, même si ça demande un peu d'introspection, vraiment adopter une posture d'humilité quand on accueille la parole de l'autre, et notamment quand on est journaliste, qui, je trouve, manque cruellement dans le métier.
Et donner la parole ne signifie pas écouter, précisez-vous.
Oui, parce qu'on peut vraiment se dédouaner en disant « mais j'ai donné la parole aux deux parties en présence qui s'opposent, par exemple ». Mais est-ce qu'on a vraiment accueilli cette parole dans un désir de comprendre ? C'est-à-dire que c'est presque parfois utiliser une parole pour illustrer un point de vue. On va avoir un point de vue opposé avec deux parties en présence. Et se dédouaner d'avoir vraiment eu une vraie curiosité. Et là, vraiment, ce qu'on voit, c'est que les interviewés vont venir illustrer, en fait, une opinion. Et ça reste très à la surface. Finalement, c'est des opinions qu'on pourrait également trouver sur Twitter. C'est ce que les gens expriment comme ça au premier abord. Mais pour vraiment écouter, il faut creuser un petit peu plus loin.
Vous mentionnez à plusieurs reprises dans votre livre, Nina Facio, le mouvement des Gilets jaunes en France, mouvement social d'ampleur qui avait été abondamment médiatisé. Et je me souviens qu'à cette époque-là, il y a un journaliste qui sortait du lot, qui allait à la rencontre des gens. Il travaille pour Brut, il s'appelle Rémi Buisine, et il était très apprécié dans le mouvement des Gilets jaunes parce qu'il faisait de la vidéo en direct, sans coupe, et qu'il laissait s'exprimer les gens sur le temps long, la liberté de temps. Voilà. Cette notion-là, on n'en parle pas assez dans les médias, de la liberté de temps, alors qu'on le parle souvent de la liberté d'opinion, de la liberté de ton, mais pas de la liberté de temps.
C'est vrai, alors on n'en parle pas assez, mais moi je le vois en formation, les journalistes par contre le regrettent amèrement. C'est-à-dire que je n'ai pas rencontré de journaliste qui m'a dit « non, moi ça ne m'intéresse pas d'être à l'écoute des gens ». Ça ne m'intéresse pas de faire mieux mon travail, de te prendre plus le temps. Par contre, les journalistes travaillent sous contrainte et n'ont pas ce temps et sont les premiers à le regretter. Mais effectivement, l'écoute, il y a une condition vraiment nécessaire à l'écoute, effectivement, c'est le temps.
J'aimerais que l'on parle ensemble de la technique du looping, technique d'entretien, technique de conversation, qui permet, précisez-vous, d'accéder à d'autres types d'informations plus profondes et plus sincères. Vous expliquez que le looping se fait en 4 étapes, j'aimerais qu'on les parcoure les unes après les autres. La première, c'est écouter.
Tout à fait. Alors la première, c'est vraiment de poser une question, évidemment. On démarre la conversation sur une question. Mais ensuite, on écoute en affichant cette intention vraiment d'écouter. Donc ça peut être verbalisé ou alors ça peut être aussi parfois un langage corporel. Voilà, quand on s'écoute, je rapporte un témoignage dans le livre d'une personne qui se rapproche des idées identitaires et qui dit « pour se sentir écouté, il faut qu'on sente qu'on nous capte, il faut qu'on nous regarde dans les yeux ». Donc ça peut aussi être de la gestuelle. Donc vraiment il faut afficher cette volonté d'être en pleine réception de ce que va dire l'autre.
Deuxième temps du looping, la reformulation, reformuler.
Alors, oui, la reformulation qui n'est pas répétition, c'est-à-dire que vraiment assumer que notre cerveau a fait son travail de filtrage, qu'on a un langage qui est peut-être différent, et donc on va restituer ce qu'on pense avoir compris de ce que la personne nous a dit. Et dans la troisième étape, la personne va pouvoir rectifier, nuancer, voire aller plus loin.
Et la quatrième étape, c'est de demander à son interlocuteur, son interlocutrice, ce qu'il ou elle veut ajouter.
Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça paraît très simple, peut-être un petit peu trop. Mais c'est vraiment, moi, sur ces 6 dernières années, le moment où, en utilisant la technique du looping, j'ai eu accès à des informations nouvelles et authentiques. C'est-à-dire que ça crée un espace de réflexion nouveau chez notre interlocuteur. Parfois, il n'y aura même pas à penser lui-même. Et il va pouvoir aller plus en profondeur par rapport à ce que, justement, il aurait déjà exprimé sur Twitter. Ça va être ce qui se cache sous la surface des propos qu'on a l'habitude de formuler.
Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Mon invité est Nina Facio, qui est autrice du livre « Malentendu, les Français, les médias et la démocratie » qui est paru aux éditions Payot. Nina Facio, vous parlez de techniques de médiation dans votre livre, mais aussi de justice restaurative, qui pourrait être une solution pour trouver l'apaisement par le dialogue. Donc, ce que vous proposez concrètement, c'est que des journalistes prennent contact avec des gens qui ont parfois décroché de l'information pour essayer de mieux les comprendre, d'accueillir leurs paroles et donc peut-être ensemble de trouver des pistes de solutions.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que, en fait, la justice restaurative, c'est une confrontation à l'autre avec une sincère curiosité et inhibition. Il faut que quand même le cadre soit bien défini. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que on pense avoir une confrontation à l'autre, à une opinion opposée, notamment par les réseaux sociaux, qui, en fait, de facto, sont pas propices à un débat apaisé. Et dans une confrontation vraiment physique à l'autre, on en sort grandi, c'est ce que les études nous montrent, à condition que le cadre soit propice à l'échange, à cet échange apaisé.
Alors il y a eu des initiatives en ce sens, on peut peut-être citer l'initiative française qui est portée par Brut et par le quotidien catholique La Croix.
Oui, Faut qu'on parle, qui est en fait une initiative qui est née en Allemagne, qui s'appelait My Country Talks, donc Mon Pays Parle, et qui a fait des petits. Il y a eu des initiatives similaires au niveau européen, au niveau mondial. C'est un peu comme un Tinder de la politique, c'est-à-dire qu'on va matcher deux personnes que tout oppose. Donc c'est vraiment très simple, on répond à des questions sur des opinions assez marquées. Ça va du positionnement par rapport aux immigrés, ou est-ce qu'on veut que l'Ukraine fasse partie de l'Union européenne. Voilà, on pose des questions, on répond par oui ou par non, tout simplement. Et on va être matché avec quelqu'un qui a des opinions différentes de nous. Puis, on organise une rencontre, donc une rencontre physique. Et là, on va recréer ce lien entre deux personnes que tout oppose, qui est un peu, oui, effectivement, ce que fait la justice restaurative. C'est vraiment cette confrontation avec l'autre.
Et souvent, eh bien, les gens sont plutôt satisfaits de cette rencontre. Ça ne les fait pas forcément changer d'avis, mais en tout cas, ça les aide à mieux comprendre l'autre.
Alors, effectivement, en plus, changer d'avis, c'est même pas le but, en fait. C'est vraiment de retrouver ce qui nous lie au-delà de ce qui nous divise.
Nina Facio, vous plaidez pour que le journalisme soit reconnu comme un métier du soin au service du bien commun, le care, comme l'appellent les Américains et les Britanniques.
Oui, je pense qu'au-delà du rôle démocratique évident du journalisme, on a un rôle social. On voit dans les études récentes, notamment il y a une étude de l'Institut Reuters qui est sortie il y a 2-3 mois, qui montre que les journalistes et les médias sont perçus par les citoyens comme nous divisant davantage que les réseaux sociaux, qui sont pourtant généralement désignés comme coupables principaux de la montée de la polarisation.
Les journalistes sont une des professions les plus mal aimées qui soient.
Exactement, oui, malheureusement. Mais je pense qu'effectivement, il y a un rôle à embrasser dans les médias pour recréer des liens pour la société, de participer au vivre ensemble, justement à travers le dialogue, comme l'a fait La Croix et Brut avec Faut qu'on parle, mais aussi en étant plus réceptif à ceux qu'on entend le moins. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec Destin commun, qui est un think tank qui étudie justement ce qui nous lie au-delà de ce qui nous divise dans la société, et qui travaille avec 6 familles de valeurs. Vraiment, la typologie, c'est de dire, au-delà de nos catégories socio-professionnelles, quelles sont les valeurs communes. Donc, au sein de la société française, ils ont identifié 6 familles. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a 2 familles qu'on entend le plus, c'est ceux qui parlent le plus fort, et qui ne représentent pas forcément c'est des opinions en plus souvent très extrêmes, mais qui ne représentent pas du tout la majorité de la population française. Mais il y a aussi des branches de ce think tank dans d'autres pays, aux États-Unis, au Brésil, en Pologne. Et c'est intéressant de voir que ceux qui, justement, s'expriment le moins ont pourtant énormément de choses à dire. Donc aussi d'être réceptif à cette parole-là.
Mais ces citoyens, quelle que soit la famille, comme vous le précisez, dont ils font partie, ils doivent à la fois faire preuve de retenue, mais aussi s'impliquer, écrivez-vous, Nina Facio.
De la retenue dans la formule, c'est-à-dire que, surtout avec les réseaux sociaux, qui garantit l'anonymat en quelque sorte, où il n'y a pas cette confrontation à l'autre qui va peut-être un petit peu nous faire retenir certains propos ou reformuler pour être plus poli. Effectivement, les réseaux sociaux font qu'on se déchaîne. Donc, un peu de retenue pour ne pas braquer, pour ne pas heurter. Et ensuite, s'impliquer. Parce que l'information de qualité a un coût, a un prix vraiment élevé. C'est pas toujours facile, en fonction de sa situation, de payer pour l'information, mais au moins en être conscient. Et aussi, accepter de donner de sa personne. C'est-à-dire qu'il y a des journaux qui créent des communautés de lecteurs, par exemple, où chaque lecteur est considéré comme expert sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets liés à leur travail ou à leur statut. Je donne l'exemple d'une personne qui a eu un cancer du sein, par exemple, et qui, de fait, est expert de ce sujet-là. Donc aussi, reconnaître ce qu'on peut apporter au débat public, sans forcément se limiter à ce qu'on représente dans la société.
Dans les solutions, toujours Nina Facio, les journalistes et les médias, eux, doivent s'appuyer sur deux, peut-être même trois choses. Tout d'abord, la collaboration.
La collaboration, c'est primordial, surtout dans un paysage médiatique où on voit un petit peu apparaître différentes réalités qui sont plus hermétiques, quoi. Évidemment, le monde rural et le monde urbain, c'est hyper intéressant, notamment aussi pour des questions de ressources, de collaborer avec par exemple, quand on est un média national, avec des médias locaux, parce qu'on va avoir accès à des gens à qui on n'a pas accès généralement. On va aussi économiser du temps, de l'argent en collaborant, mais aussi parce que ça va permettre de décupler l'écho de certains contenus, sans forcément être dépendant des réseaux sociaux, mais du coup, on va de facto s'adresser à plus de gens.
Il faut aussi désélitiser l'information. Ça veut dire quoi ?
Alors, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans certaines émissions d'infodivertissement, par exemple, où le parler vrai est vraiment apprécié. Le ton direct, le fait que les journalistes ou les présentateurs peuvent parler comme... on parlerait à son voisin. Et ça, c'est apprécié par le public. Donc, je pense que c'est important de simplifier le langage tout en honorant la complexité des sujets. Pour pas que les gens se sentent exclus de certains sujets, et notamment, évidemment, les sujets liés à l'écologie, mais que le langage qui est utilisé pour en parler reflète aussi leur quotidien et notamment la façon dont eux-mêmes s'expriment.
Et vous écrivez que lorsque l'on dit, par exemple, d'où l'on parle, ça montre qu'on se pose la question en tant que journaliste, en tant que média, de la façon dont l'information est réceptionnée par le public et que ça aussi, ça compte.
Oui, une transparence sur la façon dont on a produit l'information, comment on a choisi nos sources, comment on a choisi le sujet, comment on a choisi l'angle. Ce n'est pas obligé d'être très détaillé. Il y a certains journaux qui font, par exemple, un petit encadré pour expliquer aussi leur relation personnelle au sujet. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une subjectivité. Et je pense que la dire plutôt que faire comme si elle n'était pas là permet au public de sentir qu'ils sont considérés aussi. La façon dont l'information va faire écho en eux compte.
C'est notamment le site d'information locale Médiacité auquel vous faites référence. Dernière chose, Nina Facio, les journalistes doivent à la fois poursuivre leur travail sérieux sans trop se prendre au sérieux.
C'est effectivement très important encore une fois, c'est honorer la complexité des sujets sans se positionner comme étant supérieur ou dans l'unique position de sachant. Pour ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de se désélitiser, c'est très important, effectivement, qu'il y ait cette proximité entre le public et les journalistes, aussi parce que de reconnaître sa condition d'humain, en fait. Et c'est ça aussi, arrêter de se prendre au sérieux, c'est qu'on est des êtres humains et ça va, en fait, c'est assez attractif pour le public.
Nina Facio, vous ai-je bien écouté durant cet entretien ?
Vous m'avez bien écouté, merci beaucoup Steven.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Ce que j'aimerais ajouter, c'est que je pense que ça dépasse vraiment la sphère journalistique, en fait. Et je suis ravie de voir que, pour l'instant, le livre trouve l'écho aussi chez des gens qui ne sont pas journalistes, mais qui questionnent la façon dont ils reçoivent la parole de l'autre et qui se disent... Je parlais, par exemple, hier avec une sage-femme qui me disait « Mais 80% des gens que je reçois en consultation... je pourrais résoudre leurs problèmes juste avec l'écoute. » Donc je pense que c'est un sujet qui parle à tout le monde, mais qui est un petit peu impensé, occulté, quand on questionne notre capacité à vivre ensemble.
Pour celles et ceux qui ont pris cette conversation en cours de route à la radio, je précise qu'elle est disponible à l'écoute, en version longue, une trentaine de minutes, si vous faites le choix de nous écouter en podcast. Merci beaucoup Nina Facio.
Merci.
Votre livre « Malentendu, les Français, les médias et la démocratie » est paru aux éditions Payot. Je vous dis à bientôt.
À bientôt, merci.
C'est ainsi que se termine l'Atelier des médias. Chaque samedi, un épisode est disponible sur toutes les applications d'écoute. Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou encore l'application RFI Pure Radio. Simon de Creuse est le réalisateur de l'atelier. Je le remercie. Pour nous contacter, voici notre adresse email atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambaud et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro original de l'Atelier des médias.